Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Dans l'histoire criminelle que voici, vous allez retrouver un trio éternel. Le mari, la femme, l'amant. Sauf que là, c'est plus un trio, c'est une partouze, car la Miss a des dizaines d'amants. C'est une histoire qui se déroule en 2008 dans la région de Compiègne, dans l'Oise. Je la débrieferai tout à l'heure avec maître Muriel Bélier, avocate de la partie civile. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute par une scène assez classique. Une femme vient signaler la disparition de son mari. On est le 10 novembre 2008, en fin d'après-midi, vers 18h. Elle s'appelle Isabelle Lemaire. Elle habite Longueuil-Anel, dans l'Oise, près de Compiègne. Elle a la trentaine un peu forte, le teint laiteux. Et la voilà qui pousse la porte de la gendarmerie de Choisy-le-Bac. Complètement affolée, à la limite de la crise de nerfs. Oh, oh, c'est au sujet de mon mari, Jean-Luc. Hier soir, il est parti avec un copain. Ils sont allés dépanner un type, il y avait un problème avec sa voiture, et depuis, ben, j'ai aucune nouvelle de lui. Les gendarmes, bien sûr, lui posent des questions. Qui était le copain? Qui était celui qui avait un problème avec sa voiture? Elle explique que le copain avec lequel son Jean-Luc est parti s'appelle Frédéric, et que le gars qu'il devait aller dépanner s'appelle Alain, et qu'ils avaient rendez-vous avec lui au camping de Carlepont, à une vingtaine de kilomètres. Qu'arrivé sur place, son Jean-Luc n'est pas descendu, qu'il a juste laissé Frédéric dépanner la voiture, et que plus tard, vers 23h, elle les a vus débarquer chez elle tous les deux, c'est-à-dire le copain Frédéric et le Alain, qu'ils venaient de dépanner. Mais pas son Jean-Luc. Jean-Luc, ils le cherchaient eux aussi. Disparu. On était très inquiets. Alors avec Alain, on est allé faire un tour en voiture pour essayer de le retrouver. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, madame, qu'il est arrivé quelque chose de grave à votre mari? Bah, c'est qu'il était dépressif, mon Jean-Luc. Depuis qu'il s'est fait opérer de sa hernie discale, il peut plus travailler. Ça le mine, vous comprenez, pour vous dire, il a perdu 20 kilos en quelques mois.
Et elle va même plus loin.
Jean-Luc, il avait des idées suicidaires. Il parlait que de ça. De se foutre en l'air, de se jeter dans le canal.
Les gendarmes prennent tout de suite cette histoire très au sérieux. Et dans la foulée, ils diffusent une photo de Jean-Luc Lemaire, le disparu, et l'immatriculation de sa voiture, une Peugeot 806. Et là, ils s'aperçoivent que la voiture en question a déjà été retrouvée, brûlée, complètement cramée, un tas de cendres, dans un chemin de la forêt de Compiègne, le lendemain de la disparition de Jean-Luc. Et là, il y a un problème, parce que ça ne colle pas du tout avec la thèse du suicide. On ne met pas le feu à sa voiture avant de se suicider, en général. Et si ça n'était pas un suicide ? Le lendemain, les trois frères de Jean-Luc Lemaire se présentent à leur tour ensemble à la gendarmerie.
Voilà quoi, on pense qu'il est arrivé quelque chose à notre frère. Il y a des choses pas nettes dans cette histoire. Comment ça, expliquez-vous? Ben voilà, on est passé voir Isabelle chez elle. Et ben y a un truc qu'on a trouvé louche, c'est que les lunettes de Jean-Luc, ben, elles étaient sur la table du salon. Oui, alors? Ben, Jean-Luc, il est miro. Ses lunettes, il les a toujours sous le nez. Faut jamais il aurait pris sa voiture sans lunettes, c'est impossible, il voit rien.
Et là, l'un des frangins ajoute.
On voulait aussi vous parler d'Isabelle. Sa femme. Disons que la fidélité, c'est pas trop son truc, hein? Vous voyez? Enfin, elle va à gauche, à droite, quoi. Pour vous dire, elle héberge son amant. Depuis 2 ans.
Ah, un ménage à trois. Le mari, la femme, l'amant. C'est un classique du crime.
Dites-moi, messieurs, qui est cet amant qui vit sous leur toit? Bon, Frédéric, il s'appelle. Frédéric Rico.
Frédéric? comme le fameux ami qui est allé dépanner la voiture. Oh, Isabelle dit que c'est un ami, mais pas d'autres, hein. Et puis encore, si c'était le seul. Pourquoi elle a d'autres amants? Oh, vous avez pas idée. On n'invente rien, hein. Il n'y a qu'à voir son troisième gosse. Qu'est-ce qu'il a, son troisième enfant? Bah, quand il est né. On est tous allés à la maternité, normal. Quand on a vu le petit, je peux vous dire qu'on s'est posé des questions. Il était tout marron. Enfin, mat, quoi, vous voyez, très, très, très mat, quoi. Alors que Jean-Luc, il est tout blanc. Et elle aussi, hein. Et vous l'avez dit à votre belle-sœur? Bah ouais, ouais. En rigolant, quoi. Elle a dit que c'est parce qu'elle avait pas arrêté de manger des carottes pendant sa grossesse. Tu parles.
Les trois frères racontent que Jean-Luc a néanmoins reconnu cet enfant. Et du coup, ils ont leur petite idée sur la disparition de leur frère.
Bon, normalement, Jean-Luc, il est jardinier à l'hippodrome de Compiègne. Mais bon, ça fait plusieurs mois qu'il a arrêté, ses rapports à sa hernie discale. Bah maintenant, il passe ses journées chez lui. Forcément, bah, ça a pas dû faire l'affaire des amants de madame, hein. Il a dû devenir gênant. Vous comprenez? Vous êtes en train de me dire que vous soupçonnez votre belle-sœur Isabelle Lemaire et son amant, monsieur Frédéric Rico, c'est ça? D'avoir tué votre frère? Bah ouais, tout à fait. C'est tout à fait ce qu'on pense.
Les gendarmes décident de convoquer sur le champ Isabelle Lemaire et son supposé amant, Frédéric. Et évidemment, à l'arrivée, ils les séparent. Chacun dans un bureau, même si ils ont eu tout le temps de caler leur témoignage. Tu diras ça, je dirai ça, et patati et patata. Les gendarmes commencent par Isabelle Lemaire. Et ils vont droit au but. Madame Lemaire, Frédéric Rico, c'est qui pour vous? Exactement. C'est un amant? Frédéric? Un amant? N'importe quoi. C'est un ami, rien de plus, je vous jure. Je le connais depuis toute gamine. Ça n'est pas ce que disent vos beaux-frères, madame le maire. Mais ils disent n'importe quoi. On était très bien avec Jean-Luc, j'aurais jamais pris d'amant.
Joli numéro. Mais qui laisse les gendarmes un peu sceptiques.
Elle a dû le sentir, alors elle ajoute.
Frédéric, il vit chez nous. Mais c'est parce qu'il est en galère, quoi. C'est pour le dépanner. Je vais même vous dire, c'est Jean-Luc qui m'a proposé qu'il vienne s'installer à la maison.
Et après, elle resserre la même rengaine sur les tendances suicidaires de son mari. Elle raconte qu'il y a quelques années, ils ont perdu un enfant en bas âge et qu'il ne s'en est jamais remis. Ensuite, les gendarmes passent à Frédéric Rico. Au passage, quel master, hein. Un catcheur, 30 ans, la coupe en brosse dans les 130 kilos. Et comme prévu, il déroule la même histoire.
Isabelle? Oh bah c'est une vieille connaissance. On se connaît depuis gamin, quoi. Alors on s'était perdu de vue et puis on s'est retrouvé complètement par hasard. C'était au supermarché il y a 2 ans.
Et donc ça fait 2 ans qu'ils font ménage à trois. Il ne paie pas de loyer, et il passe l'aspirateur de temps en temps. Il sort les poubelles aussi. Et il s'occupe des gosses. Et évidemment, il n'est pas l'amant d'Isabelle.
Oh, bah, c'est une amie, hein. Rien de plus. Oh, bah, j'ai trop de respect pour Jean-Luc, hein. Je suis pas capable de me taper sa femme, hein.
Et concernant la disparition de Jean-Luc, justement, est-ce qu'il a sa petite idée?
D'après vous?
Eh ben oui. Il était dépressif.
Oh bah c'est vrai que depuis quelques temps, il avait le moral dans les chaussettes, Jean-Luc. Hein. Il broyait du noir, fallait voir ça. Hein. C'était pas la joie tous les jours à la maison.
Et lui aussi songe au suicide.
Bon, il arrêtait pas de me dire qu'il en avait marre. Qu'il voulait se foutre en l'air, quoi. Il n'y avait pas moyen de lui remonter le moral. Il y a 2 semaines, si j'avais pas été là, il se foutait sous le train, hein. C'est moi qui l'ai rattrapé, ça a été juste, hein. Ah ouais, très juste, hein.
Le lendemain, sur les coups de 14 heures, un autre homme se présente de lui-même à la gendarmerie.
Décidément, dans cette affaire, c'est le défilé. Il s'appelle Alain Lanternier. Alain ? Vous vous souvenez que le type dont ils étaient censés réparer la voiture s'appelait Alain, selon la version officielle, enfin celle d'Isabelle Lemaire. Jean-Luc a déposé Frédéric chez cet Alain, Alain Lanternier. Et c'est après qu'il a disparu. Donc le témoignage de cet Alain Lanternier est bigrement intéressant. Et il est d'autant plus prometteur que le type a le visage en sueur quand il rentre chez les gendarmes. Mais une fois assis, il débite la même histoire que les deux autres. À un détail près, il dit qu'il est l'amant d'Isabelle. Lui aussi. Ouais, j'ai rencontré Isabelle sur un site de rencontre par téléphone. Il y a quelque temps, quoi. Et en vrai, ça fait une semaine qu'on se voit. On est très amoureux, vous savez.
Ah, ça, elle ne l'avait pas dit. Qu'est-ce que les gendarmes retiennent de tout ça? Eh bien d'abord qu'Isabelle a au moins un amant, cet Alain Lanternier, et sans doute un deuxième, Frédéric Ricot, et qu'elle cherche à le cacher. Et pourquoi? Et par ailleurs, ces deux hommes se connaissent. Et ils sont les derniers à avoir vu Jean-Luc Lemaire vivant. Ça sent l'embrouille. La grosse embrouille. Alors, ils se mettent à fouiner dans la vie du couple Lemaire. Ils interrogent les enfants, les amis, la famille, les voisins. Et voilà ce qu'ils apprennent. Les enfants, d'abord, disent que leur papa est un papa poule, qu'il les aime, qu'il s'occupe d'eux. Et ils racontent aussi un truc sacrément intéressant. Depuis quelque temps, qui était le chef de famille? Qui tenait les rênes? Qui décidait de tout dans la maison? C'était pas leur père. C'était Frédéric, Frédéric Ricot. Les gamins racontent qu'un jour, Ricot a plaqué leur père contre le mur en l'agrippant par le col pour bien lui faire comprendre qui était le chef. Et c'est pas tout. Une fois, Frédéric, il était en colère. Il a tué notre lapin. Avec le manche à balai. Et quand il est colère, des fois aussi, il fait des prises de catch à papa. Et il nous donne des claques. Ça, c'est ce que révèlent les enfants. Et à part ça, il n'y a plus de doute. Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot sont amants. Tout le monde le dit. Ils ne se cachent pas. On les voyait bras dessous, devant tout le monde. Il n'y a aucun doute. Et les gendarmes en ont appris une bien bonne. Le petit dernier des cinq gamins d'Isabelle, il serait de Ricot. Même si Jean-Luc a reconnu la petite. Bref, les gendarmes, pour être honnêtes, sortent de tout ça avec la conviction qu'Isabelle et Frédéric Ricot se sont débarrassés de Jean-Luc. Mais ça n'est qu'une conviction, et ils n'ont pas de preuves. Alors ils les placent sur écoute tous les deux, Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot. Et ils se font remonter leur fadette, c'est-à-dire la facture détaillée de leur portable. Et là, il découvre le poteau rose. Isabelle n'a pas que deux amants. Elle est complètement accro au site de rencontre par téléphone. Vous savez, ces numéros surtaxés qui permettent de rencontrer des hommes de la région. En 3 mois, écoutez bien, elle a appelé ces forums téléphoniques plus de 37 000 fois. Une malade! Une malade du cul! Ces dernières semaines, elle a eu jusqu'à 8 amants en même temps. 8! Et le jour de la disparition de son mari, elle a appelé le téléphone de l'amour 560 fois. Une nympho! Mais à la lecture des relevés téléphoniques, on n'apprend pas que ça. La nuit de la disparition de Jean-Luc, elle dit qu'elle a battu campagne à sa recherche. Et que Frédéric est resté à la maison pour garder les enfants. C'est faux! Le portable d'Isabelle Lemaire montre que ce soir-là, elle est avec Alain Lanternier. Chez lui, c'est-à-dire au camping de Carlepont. Le soir de la disparition, elle est avec Alain. Les quatre pattes en l'air, sans doute. Et la vidéo de surveillance du camping le confirme. On les voit tous les deux qui arrivent bras dessous aux alentours de minuit et demi et qui en repartent à 1h50.
Ils ont menti. Tous les deux. Sur cette base, les gendarmes pourraient très bien les mettre en garde à vue sur le champ. Ils décident d'attendre un peu. Ils sont sur écoute. Ils vont bien dire une bêtise. Et en attendant, un journaliste de France 3 Picardie s'intéresse à l'affaire. Il interviewe Isabelle Lemaire chez elle, parfaite dans son rôle d'épouse éplorée.
Oh ben, c'est très dur pour moi et les enfants. J'espère qu'il va vite revenir.
Et là encore, elle ajoute.
Il parlait énormément de suicides ces derniers jours. Il était vachement déprimé, quoi.
Et ce que les gendarmes attendaient, espéraient, finit par se produire. 15 jours après la disparition de Jean-Luc Lemaire, Frédéric Ricot appelle Isabelle. Et les gendarmes sont à l'autre bout de la ligne.
Je suis complètement flippé, Isabelle. Je crois que j'ai laissé des traces sur la bagnole de Jean-Luc. À tous les coups, il y a mes empreintes.
Eh ben voilà, ils sont mûrs. Et donc le 26 novembre, ils sont placés tous les trois en garde à vue. Isabelle Lemaire, Frédéric Ricot et Alain Lanternier. Et en parallèle, les gendarmes perquisitionnent le pavillon des Lemaire. Et là, ils tombent sur des lettres d'amour de Frédéric Ricot à Isabelle. Des lettres enflammées qui commencent par « mon ange »,« mon amour ». Et puis, ils trouvent aussi un étrange bon de commande pour une 207 coupée cabriolet d'une valeur de 17 000 euros au nom de Ricot, alors que le gars est fauché comme les blés. Mais surtout, il tombe sur un contrat d'assurance décès contracté par Jean-Luc Lemaire. S'il meurt, sa femme touche plus de 150 000 euros, même en cas de suicide. Eh ben le voilà, le mobile. L'argent. Comme souvent, comme toujours, le pognon, le flouze, la maille, ça rend fou. Isabelle Lemaire craque la première.
Bah, c'est Frédéric et Alain qui ont tué mon mari. Ils se sont débarrassés du corps. Et moi, j'ai rien dit parce que Frédéric, il me faisait peur, quoi. Il m'a dit que si j'ouvrais ma gueule, il me butait, moi et mes gosses.
Et puis, c'est Frédéric Ricot qui flanche.
Ben, moi, Lanternier, quoi. On a convaincu Jean-Luc qu'il fallait qu'il nous aide à dépanner une voiture. Mais il n'y a jamais eu de voiture en panne, quoi. C'était un piège, quoi.
D'après lui, voilà comment les choses se sont passées. Ils sont partis à deux, en voiture, pour dépanner cette fichue voiture. Lanternier, dans son Scénic, et derrière, Ricot et Jean-Luc, dans la Peugeot 806. Mais ils ne sont pas allés au camping comme prévu. Ils sont allés dans une carrière de sable, à Attichy. Et là, Ricot dit qu'il a étranglé Jean-Luc Lemaire. Et qu'après, ils l'ont enterré dans le sable.
Mais pourquoi est-ce que vous l'avez tué, monsieur Ricot?
Bah, je l'ai entendu insulter Isabelle, il l'a traité de putain. Et ses propres enfants, il les traitait de bâtards. Je pas supporté, quoi. J'avais les nerfs contre lui. Je voulais lui faire la peau.
Et dans la foulée, Alain Lanternier avoue lui aussi. Mais lui dit qu'il n'a fait qu'obéir à Ricot et qu'il n'a fait que les conduire à la carrière de sable. Rien de plus.
Bon, quand j'ai vu Ricot, il étranglait Jean-Luc, j'ai pas compris, quoi, j'ai eu peur. Je pouvais même plus bouger, quoi. J'étais mort de trouille, quoi.
Ouais, mais il n'a pas bougé, il ne s'est pas interposé. Et Lanternier confirme qu'ensuite, ils ont aidé à enterrer le corps et à brûler la voiture.
Et pourquoi vous n'avez pas prévenu les gendarmes, monsieur Lanternier?
Bah, Ricot, il m'a dit que si je répétais ce que j'avais vu ce soir-là, il me buterait, quoi, avec mes gosses.
Ce Lanternier a l'air un peu simplé. et les gendarmes acceptent l'idée que sans doute il n'a eu qu'un rôle secondaire. Mais les deux autres, en revanche, ils ne disent peut-être pas encore toute la vérité. Car les relevés téléphoniques montrent qu'elle était sur place, elle aussi. Et si Frédéric Rico n'était pas le seul assassin? Parce que pour l'instant, elle accuse Rico et Lanternier, et elle se donne le beau rôle. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble, tous ensemble? Pour l'instant, elle tient sa ligne.
Je vous jure, j'étais au courant de rien. C'est Rico qui m'a dit qu'il a tué mon mari. Moi, j'en revenais pas, quoi.
Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé?
Ben, j'avais peur, je vous dis.
Et là, les gendarmes lui parlent du bon de commande qu'ils ont trouvé chez elle pour cette Peugeot 207 CC à 17 000 euros. Certes, le bon de commande est au nom de Rico, mais les gendarmes ont vu le concessionnaire de chez Peugeot. Cette voiture, ils sont allés la commander ensemble, main dans la main, comme deux amoureux. Et ils ont dit au vendeur qu'ils attendaient une grosse rentrée d'argent.
Alors, madame le maire, cette rentrée d'argent, c'était quoi?
Moi, j'en sais rien, moi. Ça, c'est les affaires de Frédéric, hein. Moi, je peux rien vous dire là-dessus.
D'accord. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est un témoin qui enfonce Isabelle pour de bon. Un certain Julien, un maître chien qui vit à Rouen, un de ses amants, bien sûr. Les gendarmes l'ont identifié grâce à des SMS énamourés qu'il envoyait à Isabelle. Et voilà ce qu'il raconte.
« Isabelle, elle m'a présenté à un de ses amis. Frédéric Rico, je crois qu'il s'appelle. Et donc un soir, on a pris un verre tous les trois. Et là, le gars, il m'a fait une proposition bizarre.
« Ah oui, continuez. »
Ben, il voulait se débarrasser du mari. Et donc, il avait besoin de moi, quoi. Moi, j'ai pas su si c'était sérieux, mais comme ça sentait mauvais cette histoire, moi, j'ai pris mes distances avec eux, quoi.
Ce qui se dessine, c'est le scénario suivant. Isabelle et Frédéric Rico veulent tuer le mari, mais sans se salir les mains, hein. Donc ils ont besoin d'un troisième. Alors ils ont essayé de motiver ce Julien, qui s'est carapaté, et c'est là qu'ils ont trouvé Alain Lanternier. Pour le chauffer, Isabelle lui aurait promis le mariage, des enfants, une vie de famille. Et ce neuneu a sauté à pieds joints dans cette histoire sordide. Le 28 novembre 2008, Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat, et Alain Lanternier et Frédéric Rico pour assassinat. Et maintenant, il faut retrouver le corps de Jean-Luc Lemaire, dans cette sablière d'Attichy où ils sont censés l'avoir enterré. Les gendarmes mobilisent des pelleteuses et des chiens renifleurs de cadavres. Ils mettent 15 jours à le localiser et à le déterrer. Et évidemment, le corps est immédiatement autopsié et le rapport du médecin légiste est glaçant. Jean-Luc Lemaire est mort dans d'atroces souffrances. Il a plusieurs fractures sur le visage, il a plusieurs côtes cassées et une marque de strangulation sur le cou. Il est mort asphyxié et cette asphyxie a duré au moins 10 minutes. C'est clair, les trois vont finir devant la cour d'assises. Mais il reste toujours à éclaircir les responsabilités précises des uns et des autres. Et donc dans ce cadre, le juge ordonne une reconstitution qui a lieu 1 an et demi après l'assassinat de Jean-Luc Lemaire, sur place, dans la carrière. Entre-temps, il faut que je vous dise que les uns et les autres ont changé 100 fois leur témoignage. Il y a même une version dans laquelle, à un moment, Rico va pour enterrer Jean-Luc et devant le trou, l'autre reprend conscience et lui aurait dit « Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Dans cette version, il l'aurait donc enterré vivant. C'est monstrueux. Et donc le juge attend beaucoup de cette reconstitution, mais ça démarre mal parce que d'entrée, Rico revient complètement sur ses aveux. Il n'a pas tué Jean-Luc, il ne voulait pas sa mort, et donc il l'a tué. Eh bien Lanternier, Bien sûr. Tout ça pour dire que la reconstitution est un échec. La vérité dans ce dossier ne pourra venir que de la cour d'assises. Et c'est pas gagné. Le procès du trio s'ouvre le 18 juin 2012 devant les assises de l'Oise à Beauvais. Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot sont côte à côte dans le box et je peux vous dire qu'ils n'en mènent pas large. Elle, elle est très tirée et lui a beaucoup maigri. Il a perdu 40 kilos depuis son arrestation. Alain Lanternier, lui, comparé libre. Il n'est plus jugé que pour non-assistance à personne en danger et recel de cadavres. Pendant tout le procès, rien de neuf. Il se renvoie la balle. Mais on apprend deux ou trois choses. D'abord, si Isabelle Lemaire est nymphomane, elle n'a rien inventé. Sa mère était pareille. Et petite, elle aurait assisté aux ébats de sa mère. Et la concernant, les experts psychiatres viennent dire quelque chose de capital.
Nous considérons qu'elle n'a pas, en quelque sorte, la carrure d'une tête pensante. Et que la planification d'un meurtre est probablement quelque chose qui la dépasse.
Ce qui, évidemment, met en pétard les avocats de Frédéric Ricot. Quant à Alain Lanternier, les psys disent qu'il est débile léger et que donc lui non plus ne peut pas être la tête pensante de cette affaire. Après 5 jours, le verdict tombe. Frédéric Ricot est condamné à 18 ans de prison. Isabelle Lemaire écope de 12 ans. Et il est décidé que Lanternier, qui a tenté de se suicider la veille, sera jugé plus tard. Il sera finalement condamné à 3 ans de prison ferme, plus 2 ans de sursis. Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer maintenant avec l'un de ses acteurs, Maître Muriel Bellier. Vous êtes avocate au barreau de Compiègne et dans ce dossier, vous étiez avocate de la partie civile, c'est-à-dire que vous avez défendu, si j'ai bien compris, ses 4 frères, les 4 frères de Jean-Luc Lemaire, sa maman et ses 5 enfants, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
Le procès remonte à... il y a longtemps, et je suis toujours un peu gêné de vous demander d'être précise sur des dossiers comme ça, mais en même temps, ma collaboratrice qui vous a eu en ligne m'a dit, elle se souvient de tout, ça l'a marqué.
Ah oui, c'est effectivement un procès, un dossier déjà, quand même un peu hors norme, et puis un procès qui m'a énormément marqué.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés au bout de leur délire et qu'on n'a pas eu, finalement, la vérité.
Alors, on n'a jamais eu la vérité. C'est-à-dire que nous avons eu des accusés qui n'ont jamais finalement assumé leurs actes.
Aucun. Donc, on a la vérité de la cour d'assises. Alors, la vérité de la cour d'assises, elle dit que le leader, c'est Frédéric Ricot, et que par rapport à lui, Isabelle Lemaire a un rôle secondaire. Est-ce que c'est l'idée que vous aussi, vous avez défendue ?
Alors, c'est pas tout à fait l'idée que moi j'avais défendue. Je pense que ces deux-là s'étaient très bien trouvés et qu'en fait, c'est une espèce d'alchimie, d'osmose du crime entre ces deux-là qui a permis malheureusement l'assassinat de Jean-Luc Lemaire.
Donc, dans votre esprit, il méritait la même peine ?
Oui, c'est ce que j'avais défendu.
Vous ne pensez pas qu'elle a participé au meurtre physiquement ?
Physiquement, non. Non, absolument pas. En revanche, elle y a largement contribué, et c'est quand même elle qui recrute, entre guillemets, Alain Lanternier pour qu'il serve d'appât.
Oui. Mais l'expert psychiatre dit qu'elle n'a pas la carrure d'un leader, qu'elle n'a pas la carrure d'une tête pensante.
Non, toute seule, je pense qu'elle n'aurait jamais eu l'idée d'un tel crime. Je vous dis que, en fait, c'est une espèce de rencontre de deux âmes damnées qui se sont parfaitement trouvées et qui, ensemble, ont fomenté ce crime. Peut-être que, isolément, ils ne l'auraient jamais fait.
Ça vous choque, d'ailleurs, au passage, que l'expert psychiatre prenne une position, comme ça, issue de sa science, dont on sait qu'elle est molle, pour finalement départager les responsabilités ?
Non, ça m'a pas choqué. Ça reste un avis d'expert. Nous avions la parfaite connaissance de tous les éléments du dossier qu'il n'avait peut-être pas quand il a émis son avis.
Alors Frédéric Ricot, vous le connaissez. Vous l'avez vu à la reconstitution, vous l'avez vu pendant les 5 jours de ce procès d'assises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ?
Ah, c'est très compliqué, en fait. Il est très compliqué de dire quelque chose de chacun de ses accusés. À la limite, celui qui a été le plus prolixe, c'était Alain Lanternier. C'est celui qui parlait le plus. Ce qui m'a marqué en fait dans ce procès, comme cela m'avait marqué d'ailleurs pendant la reconstitution, c'est que les accusés n'ont jamais parlé véritablement. Autant dans le bureau du juge d'instruction, manifestement, ils disaient beaucoup de choses, autant par exemple à la cour d'assises, on n'a quasiment pas entendu le son de leur voix. Bon. Les avocats parlaient beaucoup à leur place, mais eux ne disaient rien.
Mais Frédéric Ricot, pour nous éclairer, c'est un abruti ou c'est un type qui est intelligent
Oui, moi, il m'est apparu comme quelqu'un plutôt intelligent, une intelligence, on va dire, qui est utile, c'est-à-dire, et je vous rejoins tout à fait dans votre exposé, pour moi, le mobile du crime, et en tout cas, c'est ce que j'avais plaidé, c'était l'argent. Et il est parfaitement en capacité de mettre son intelligence à son service, quand ça peut, justement, lui être utile.
Lui, ce qui le motive, ça n'est que l'argent. Et elle ?
Elle, c'est compliqué. Elle est très, très immature. Donc, je pense que par moment, elle a dû très sincèrement regretter la mort de Jean-Luc Lemaire. Elle est très inconstante. Et très inconséquente. Elle a beaucoup de mal, en fait, à mesurer les conséquences des actes qu'elle peut poser.
Son addiction au sexe, qui est quelque chose de stupéfiant, j'en ai raconté, hein, des histoires de nymphomanes, mais des comme ça, quand même, 37 000 coups de fil en quelques mois, j'ai jamais vu ça, 560 dans la journée qui précède le crime, à cette messagerie qui lui permet de rencontrer des hommes de la région, c'est une maladie, en vérité.
Oui. Complètement. Alors, c'est une addiction, mais c'est une addiction surtout à du sexe virtuel. Il y avait bien sûr des rencontres et elle était capable de faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller retrouver quelqu'un, mais c'était plus en marge. Ce qui l'intéressait surtout, c'était qu'on lui prête attention, qu'on l'aime d'une certaine manière. Je vous dis, elle a des côtés très, très immatures, très infantiles.
Ce qui explique la peine, parce que finalement, pour un assassinat, et l'un et l'autre d'ailleurs, ils ne s'en sortent pas si mal. Ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité.
Oui, tout à fait.
Ils s'en sortent avec 18 et 12.
Oui.
Ça traduit la fragilité des personnages.
Oui, la fragilité des personnages et cette idée, encore une fois, qu'ensemble, ils étaient capables de tout, mais que séparément, à mon sens, ils ne l'auraient jamais fait. Et je pense que la cour d'assises a aussi suivi un peu ce raisonnement.
Vous étiez dans ce dossier avocate de la partie civile et vous défendiez notamment les intérêts des 5 enfants du couple Lemaire. Ils étaient tout petits hein, au moment des faits. Quel âge avaient-ils dans votre souvenir ?
Alors, l'aîné avait 13 ans, hein, donc c'est pas si petit que ça. Donc on avait 13, 8, 6, et puis 2 et 1.
Ouais. Leur position est terrible, parce que leur père est la victime, leur mère est l'assassin.
Complètement. Complètement. Et l'aîné, d'ailleurs, de la fratrie, a tenu à assister à quasiment tout le procès.
Leur position à eux était du côté de leur père.
Complètement. Complètement. Cet homme portait un amour immense à ses enfants. Il était prêt à tout accepter, y compris même à reconnaître l'un d'eux comme le sien, alors que manifestement il ne l'était pas. Mmh. Et à plusieurs reprises, hein, il s'est plaint de ce qu'il vivait chez lui, mais j'ai toujours été convaincue que s'il n'avait pas demandé le divorce et s'il était resté, c'était justement parce que s'il demandait le divorce, il se retrouverait séparé de ses enfants et ça, il ne pouvait pas le supporter.
Ils se sont retrouvés à la DAS, ces enfants, ou la famille les a récupérés ?
Alors, dans un premier temps, la famille les a récupérés, une partie de la fratrie dans la famille paternelle, l'autre partie dans la famille maternelle. Et puis, ça a été très, très compliqué à gérer, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés très rapidement réunis en institution.
Il y a quelque chose
qu'ils ont grandi en institution.
Il y a quelque chose qu'il faut qu'on raconte maintenant, qui est une espèce de codicille terrible à cette affaire, c'est que très récemment, Frédéric Ricot a été condamné pour agression sexuelle sur l'un de ses enfants.
Pour agression sexuelle et pour violence sur 3 de ses enfants, oui.
C'est-à-dire ?
En fait, à l'occasion en fait, de leur placement dans la famille maternelle pour les uns, paternelle pour les autres, ces enfants se sont mis à parler et à raconter ce qu'ils avaient vécu également au quotidien en marge de l'assassinat de leur père. Et donc, ça a donné lieu à l'ouverture d'une autre information judiciaire qui a mis un certain temps avant de connaître son dénouement, et on l'a connu l'année dernière.
Et donc Frédéric Ricot était sorti de prison à ce moment-là ?
Non, non, il était toujours en détention.
Et il y est resté ?
Il y est resté.
Il y est toujours ?
Et il y est toujours, plus à mon avis pour très longtemps, mais il y est toujours.
Je vous remercie infiniment, Maître Muriel Bellier, avocate du barreau de Compiègne, d'avoir accepté de revenir sur cette histoire ancienne.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.